Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Val. C'est un essai, un épisode pilote de cette série de podcasts extraordinaires. Et nous sommes avec Flavie. Flavie, ça va ?
Oui. J'ai plein de blagues sur le Val en tête, je vais me retenir pendant le podcast, m'étonnes. Mais je suis pas sûre.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs ?
Bonjour, je m'appelle Flavie.
Oui. Bonjour Flavie.
Bonjour Flavie, oui.
Alors, je suis aux Alcooliques du Val depuis peu de temps et je suis venue pour parler et dire des choses. Et... D'habitude, je suis sur le podcast de la cellule pour dire des bêtises et on m'a proposé de dire des bêtises sur un autre podcast. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais oui, je suis là.
Bon, voilà,
tu as un Val dans le cerveau, ça s'entend quand tu tousses.
Ça commence bien.
Ben alias Dark qui est avec nous également. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas sur ce podcast nouveau extraordinaire ?
Bonjour à tous, je suis Benjamin, joueur du Val depuis ses débuts et j'espère pour encore longtemps.
Et quant à moi, je suis Romaric Briand, l'auteur du Val. J'officie également comme host sur le podcast de la cellule avec Ben et Fly. Et puisqu'on a des micros, puisqu'on a des sièges, puisqu'on a une table laquée fantastique, on s'est dit pourquoi pas faire un petit podcast sur le Val pour présenter les enjeux du jeu.
Sachant que pendant le podcast, il est possible qu'à un moment je vous laisse puisque j'ai un babyphone. Mmh. Et si le babyphone ne m'appelle, je vous le laisserai.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va traiter d'une question le plus rapidement, le plus synthétiquement possible. Et cette question, c'est selon vous, chers podcasteurs, et oui, les podcasteurs découvrent la question en
exactement.
Même temps que vous, chers
c'est une nouveauté par rapport au podcast de la cellule maintenant, et dans le podcast du Val, en fait, il nous l'a dit pendant le podcast.
Alors, je peux déjà dire, moi, je vais laisser Flavie répondre.
Très bien.
Merci beaucoup, Ben.
Bien, quelle pénurie, selon vous, est la plus pénalisante. Alors, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs ce que c'est qu'une pénurie. Qu'est-ce que c'est qu'une pénurie, Ben ?
C'est quand il n'y en a pas.
Exactement. C'est quand on est en manque d'une couleur. J'ai pas de cœur dans ma main, je ne peux rien faire, je ne peux pas poser de figure. Ouais. Ça m'embête, c'est vraiment la pire. Et là, ton adversaire dit, mais non, c'est la pénurie de pique, le pire, parce que tu peux pas taper. Mais non, c'est la pénurie de trèfle,
parce que tu peux pas piocher,
etc.
Mais non, c'est la pénurie de carreaux, parce que tu ne peux former que des fous.
Et donc te faire destroy, parce qu'un fou est faible.
Alors justement, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Alors,
pour moi, c'est la pénurie de figures la plus chiante. Déjà,
bravo, tu réponds déjà à côté de la question. C'est-à-dire que moi, je pensais plutôt en termes de couleurs. Et là, tu dis en termes de figures. Très intéressant.
Eh bien oui, mais si faut, monsieur le présentateur, il faut bien aiguiller vos questions.
Non, mais j'avais pas pensé à ça.
Parce qu'en fait, déjà, quand on n'en a qu'une en main de base et qu'on pose sa figure et qu'on se la fait désinguer, ensuite on a... Ah, je vais faire quoi avec toutes mes petites cartes ? Même si je les joue de la main, ça va me faire dépenser des cartes et du coup, je ne pourrai pas poser mes figures après.
Ouais, putain.
Et c'est le truc le plus chiant qui peut y arriver. Pour moi, c'est la main difficilement jouable.
Alors, le jeu prévoit justement le mulligan uniquement dans ce cas précis où vous n'avez pas de figure en main de base après le crépuscule. Donc, du coup, effectivement, c'était déjà, en termes de playtest, la pénurie qu'on avait pressentie comme étant la pire. Et toi, tu dis en fait que à partir du moment où tu n'as qu'une seule figure, ça demeure une pénurie et ça demeure la pénurie la plus rude du jeu.
Ça va être dur parce que dès que tu auras posé ta figure... Déjà, moi, quand j'ai une seule figure en main de base, je me pose toujours la question quand je commence. Est-ce que je pose vraiment une figure ou est-ce que je sacrifie un trèfle de ma main pour être sûr d'avoir une figure en plus au cas où ?
Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas bête.
Là, je suis vraiment... Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, avec une seule figure... tu peux déjà commencer à avoir des... Alors, on part du principe que tu n'as qu'une seule figure, mais comme tu n'as qu'une seule figure, tu as beaucoup de ressources cardinales, de cartes comme 10 de pique, 10 de carreau, etc. Enfin, et selon moi, donc, du coup, tu les as un peu toutes, tu vois, les couleurs. Donc déjà, tu as du choix. Tu as une figure et tu as du choix.
Ouais, mais les seules parties où vraiment je ne me suis pas marrée, où vraiment je me suis dit, oh là là, je vais faire comment, c'était des...
Où tu n'avais qu'une seule figure.
C'était cette pénurie-là.
Moi, je ne la trouve pas pénalisante, parce que si tu n'as qu'une seule figure... Parallèlement, ça veut souvent dire que ton adversaire en a plein. Et quand il en a plein, c'est pas forcément un avantage. C'est-à-dire beaucoup de cartes faibles qui vont pas forcément pouvoir être jouables facilement. Il va être tenté, s'il pose roi-reine en face de toi autour d'eux, de jouer un accompli amoureux, par exemple, ou ce genre de choses. Donc tu vas pouvoir le piéger là-dessus.
C'est vachement bien. Enfin, le piéger, non, il faut que tu tapes son trèfle.
Bah justement, ouais, tu vas taper son trèfle d'abord et après tu le piégeras en piochant. Tu vas piocher une carte donc qui comblera ta pénurie et en plus tu vas lui baiser potentiellement un cœur. C'est une technique que j'ai utilisée récemment contre un de mes joueurs débutants et je peux te dire que ça a cartonné.
D'un autre côté, si tu n'as pas de figure ou qu'une figure et que tu poses une créature, admettons que tu ne puisses pas faire tu ne puisses pas faire d'accompli, et ben ce que tu poses le tour 2, l'autre il va te le défoncer. Il ne va pas s'embêter à faire un accompli, il va te défoncer ce que tu auras posé.
Parce qu'il va se dire, puisque j'ai trop de figures, il n'a pas. Généralement, encore une fois, on part du principe que si tu n'as qu'une figure dans ta main, c'est que tu as un potentiel au niveau couleur qui est monstrueux. En théorie, tu as.
Peut-être, mais tour 2, tout est pétable quasiment. Enfin. Tu poses ta créature, l'autre il est.
Ah, je suis pas d'accord avec toi.
Ah, si l'autre n'a que des figures, non, parce qu'il aura pas les cartes qui vont avec pour poser plus de.
C'est un premier point. Puis au tour 2, tu peux poser déjà, si tu poses par exemple mettons que la seule figure que t'es, c'est un valet de cœur. Tu vois, en plus, je prends un exemple faible. T'as un 9 de cœur, t'as déjà 10 en cœur. Si tu le poses en enfant, t'as 11 en cœur. Il faut que le mec il ait un gros pic et en plus une figure de pic à côté qui le mette en chevalier. C'est assez chaud en fait. Enfin, moi je trouve en tout cas que la pénurie de figure, c'est pas la plus difficile à combler. D'autant plus que tu peux tout simplement t'en sortir au tour 1 en jouant accompli au tour 1.
Tu te retrouves
avec une formation qui de toute façon va te permettre de conserver ta figure. Si l'autre est. Alors évidemment, la meilleure combinaison c'est accompli tour 1. Avec une seule figure, tu joues le trèfle, tu pioches pour combler, essayer de piocher pour combler ta pénurie.
Et tu passes complètement inaperçu puisque tout le monde fait ça, même si tu n'as pas, même si tu n'es pas en situation de pénurie.
Très très souvent. Et d'ailleurs, moi généralement, je joue un trèfle faible à ce moment-là pour attirer les foudres adverses, un carreau sur le trèfle. Du coup, c'est le trèfle de mon accompli qui va être visé, non son cœur. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le trèfle, s'il va à la rivière de la mort, je peux toujours l'éduquer à mon prochain tour pour retransformer le seul être que j'ai en accompli, donc le conserver encore et encore. Donc du coup, moi il me semble que la pénurie de figures, c'est pas une pénurie si pénalisante que ça. Elle te laisse des choix, selon moi, tu as des ouvertures et des stratégies qui vont combler ta pénurie et qui vont te permettre. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas. Je ne serais pas d'accord avec toi, Fly, pour dire que c'est la pénurie la plus pénalisante. Ça a l'air comme ça, mais en fait, si tu y réfléchis bien en termes de proba, en termes de statistiques, si tu as une pénurie de figure, encore une fois, c'est que tu as un grand pas. Alors, ce qui est terrible, c'est quand tu as la pénurie de figure et que tu as la pénurie de ressources qui va avec. Mais auquel cas, tu vois, le problème, c'est moins la pénurie de figure que le fait que, par exemple, il te manque du trèfle. Et du coup, tu es obligé de jouer un chevalier ou ce genre de choses.
Puis tu peux blaster aussi, simplement. Tu peux faire peur, mettre la pression, balancer des gros trucs.
Tout à fait. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Fly, parallèlement, c'est que le jeu prévoit le mulligan en cas de pénurie totale de figure. Oui. Ce qui veut bien dire quand même qu'elle a raison.
La question est absolue, quelle est la pire pénurie?
Évidemment, celle-là, ouais, bien sûr. Mais par contre, dans le jeu, une figure.
Par contre, oui, pour les couleurs, alors, je me tourne vers Darky.
je viens de me mettre en doute. J'avais peut-être dans l'esprit, sans y réfléchir, que c'était le trèfle, parce que c'était la pénurie qui t'handicapait absolument, puisque tu ne pouvais pas...
Tu peux piocher.
Voilà, tu ne pouvais pas répondre à la pénurie.
Ah, mais pour moi, ce n'est pas celle-là.
Mais justement, là, je suis en train de me dire que peut-être les pénuries d'attaque te forcent à... Donc d'attaque, c'est-à-dire une pénurie de carreaux ou une pénurie de piques, te forcent à poser des créatures qui ont deux faiblesses. Forcément. Et donc, l'autre a toutes les armes pour défoncer les créatures. Les formations que tu vas poser.
Ouais, tout à fait.
Et je suis en train de me dire que là, pas de pique, qu'est-ce que tu poses? Super, tu poses des magots.
T'as toujours l'enfant.
Bah, l'enfant, pareil. C'est, ça se fait ouvrir.
Justement, je vais me porter en faux contre vous, monsieur Ben. Pour moi, la couleur qui pose le plus souci quand on n'en a pas, c'est le cœur. Parce que l'enfant te permet de te temporiser. Dominante. L'enfant te permet de temporiser, en plus c'est une défense parce que le gars en face ne pourra pas utiliser de pique ou s'il le fait, il perd 5 PV et c'est la défense du diable. Ensuite, mon dieu, sans pique tu poses que des spectres, sans cœur tu poses que des spectres, donc tu perds 5 PV à chaque fois.
Ouais, mais tu pioches vachement du coup. Enfin,
ben non, pas vraiment.
Tu
parce
t'ouvres
que,
pas mal de pioches, tu dépeces un enfant, tu le récupères.
Bah oui, ça paraît une bonne idée comme ça, mais moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois cette partie, au final c'est la partie la plus dure parce que tu perds des PV, et au final, tant que t'as pas de cœur, tu peux pas faire les figures qui, selon moi, sont plus intéressantes, parce que je sais que le spectre c'est intéressant, tu peux piocher dans la rivière de la mort, tu peux gérer ta pioche, comme on dit, mais au final, pour moi, et ça, j'en reviens, pour moi, ce qui est le plus intéressant comme figure, ce n'est pas comme être, ce n'est pas le fou, c'est le chevalier. Et donc, du coup, sans cœur, tu ne peux pas poser cet être qui est, selon moi, le plus bourrin parce qu'il n'a que le cœur. à attaquer.
On ne peut pas l'attaquer sur son pouvoir.
Et en plus, en pique, il est hyper fort. Pour peu que tu lui mettes un carreau bourrin, ben, tu as un chevalier hyper fort.
Du coup, pour aller dans ton sens, j'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que tu considères dans ce cas que la pénurie de trèfle est la moins handicapante puisque tu poses des chevaliers et tu blastes ?
Exactement, ouais. Je préfère poser des chevaliers parce qu'au final, les fous se font dézinguer très très rapidement.
C'est vrai.
Tu perds rapidement toutes tes cartes. Alors, c'est bien le fou en entrée, un fou de Menken, pour recycler tes bouses, genre tes 1, tes 2, tes 3. Ça te permet de recycler deux cartes pour toi. Enfin, très bien. Par contre,
rappelle peut-être ce qu'est un fou de Menken.
Un fou de Menken, c'est quand on pose un fou avec que des cartes debout autour, ouais. Des 1, des 2, des 3.
C'est un fou dont le destin est uniquement de mourir, faire perdre un carreau ou un tour à carreau à l'adversaire en le tuant, et à ton tour de jeu, lors de la phase des actes, après son engendrement, de jouer son trèfle pour piocher deux cartes. Donc au final, tu poses quatre cartes sur le terrain, tu pioches deux nouvelles cartes dont tu as déjà recyclé. C'est-à-dire recyclé, qu'est-ce qu'on appelle recyclé ? C'est défausser des cartes pour en piocher des nouvelles. Tu as déjà recyclé deux de ces cartes pourries contre deux cartes en aléatoire. Et ensuite, l'adversaire doit jouer un carreau sur le fou, parce que s'il le laisse, c'est juste irrationnel. Il va se retrouver débordé par la pioche. Donc il doit, à un moment donné, le fou va être forcément ciblé par une attaque. Donc ça défausse l'adversaire d'une carte, ça te fait piocher deux cartes. Et au final, ça te permet quand même de relativiser le fait d'avoir quatre cartes de merde au départ. Un as de trèfle, un as de cœur, un as de pique et un valet de trèfle. Ça fait un excellent fou de Menken. De toute façon, ces cartes sont inutilisables.
Ouais, et puis, en termes narratif dans le Val, le fou de Menken, c'est un fou un peu débile avec une baguette en bois. Et le roi lui dit « Va attaquer le spectre fort là-bas. » D'accord, j'y vais.
Ah, mais c'est la formation pourrie que t'adores poser.
C'est la formation pourrie que t'adores poser.
T'adores l'avoir détruire, t'adores l'avoir utilisé.
Tu t'en fous.
T'adores regarder le mec et faire un « Ah, j'ai fait des trucs
de merde. » Et si l'adversaire, et ça c'est une erreur qu'on peut être tenté de faire, mais si l'adversaire commet l'erreur de laisser ce fou en jeu, il va se retrouver face à un véritable problème.
C'est-à-dire qu'au tour 2,
il va permettre de piocher 4 cartes, il aura recyclé entièrement ses cartes, et il va défausser un carreau de l'adversaire en plus. C'est-à-dire que dès le tour 2, il apporte déjà un avantage, alors qu'il n'est composé, je le rappelle, que de cartes toutes pourries.
C'est la formation nulle que tu dois cibler, que tu dois en faire une priorité.
On pourra peut-être faire un podcast spécial sur les fous et les fous
d'un
particulièrement.
Mais du coup, au début où j'ai joué, je suis en train de changer ma façon de jouer au fur et à mesure. Je fais des tests.
Tout le monde teste.
Moi, au début où j'ai joué, je jouais énormément de fous. Je l'essayais de les mettre avec des spectres parce que je trouvais que ça marchait bien. Et en fait, je reviens de cette formation, j'essaie de trouver, c'est aussi pour ça que je veux pas mal jouer en ce moment, parce que j'ai besoin de tester une nouvelle façon de jeu qui tournerait autour du chevalier. J'ai du mal à la mettre en place, mais j'essaie de voir à peu près où est-ce que ça va aller, parce que pour moi, le chevalier, il y a une stratégie que je dois trouver.
D'accord.
Donc, du coup, si j'ai pas de cœur...
Moi, en ce moment, je suis en train de playtester le fou à fond dans toutes ces combinaisons, de retourner cette combinaison dans tous les sens pour essayer d'en trouver des stratégies viables.
Et moi, je joue beaucoup en draft et donc j'adore cette...
La variante d'Osten, qui est une version du drafté du Val. Donc, exactement. Le draft dans Magic l'Assemblée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de prendre une main au départ de 10 cartes. On va prendre la carte que l'on juge la meilleure parmi ces 10 cartes et les 9 cartes restantes, on va les passer à l'adversaire qui va faire de même. Et on va faire tourner comme ça le jeu jusqu'à sélectionner 10 cartes soi-même.
Dans le Val, c'est 9. Hein. Puis après, il y a le crépuscule.
Voilà, tout à fait.
Et donc, le roi amoureux m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que la pénurie de cœur me touche pas tant que ça, puisque j'ai toujours l'impression, en tout cas après une Ostein, tu as réussi à récupérer souvent des cartes qui t'intéressent. Et t'as toujours une pénurie de cœur et comblable par...
Alors, oui, mais à force de jouer en Ostein...
Je suis d'accord que je réponds plus spécialement à la question.
Non, mais à force de jouer en Ostein, je pense que tu passes aussi à côté de quelque chose. C'est-à-dire que, du coup, comme tu l'as dit, tu choisis toujours tes cartes.
Je suis d'accord. Ouais, ouais.
Or, essayer d'apprendre à jouer avec les mains de base, ça t'apprend aussi à faire face à plein de situations.
Alors, on voit là déjà que, vous voyez, avec cette question de quelle pénurie est la plus pénalisante dans le Val, on est quasiment obligé de voir tous les concepts du jeu défiler. Les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Val, ou en tout cas qui viennent de découvrir, là déjà, on est en train de parler de l'Austen, de plein de trucs. En fait, c'est des questions qui ne sont pas tranchées. C'est un peu comme une question philosophique, finalement.
C'est une croyance, quoi.
C'est des trucs... on en est réduit à la croyance et à nos expériences sur le jeu.
Mais je sais que par exemple, la pénurie de carreaux, pour lui, c'est la plus déstabilisante.
C'est la pire.
Il supporte pas de jouer sans carreaux et alors, s'il a pas de carreaux, il ne sait pas quoi faire.
Alors qu'a priori, c'est la moins pénalisante, puisque la pénurie de carreaux te permet quand même de poser Footman Kent au tour 1, de piocher deux cartes et donc d'espérer combler assez rapidement ta pénurie. A priori, ce serait la pénurie la moins pénalisante. Voilà,
pour Fly, c'est le trèfle, hein, la moins pénalisante. Et donc, moi, juste pour retrancher, je crois, enfin, a priori, après ce débat-là, j'ai l'impression que quand même, la pénurie de trèfle t'handicap. Tu peux rien recycler et si en face, le type a...
Tu peux pas accélérer ta pioche.
Ouais. Et la pioche est assez intéressante.
Alors c'est là que je voudrais moi aller contre, encore, décidément je suis tout contre Fly en ce moment.
Oh,
c'est la pénurie de cœur, pour moi, n'est pas la plus pénalisante. Ou alors si elle l'est, ça dépend du tour. C'est-à-dire que si tu es la première à jouer, la pénurie de cœur est moins handicapante, me semble-t-il, que si tu es deuxième. Parce que si tu es, typiquement si tu es deuxième, tu peux poser Spectre, tuer l'enfant adverse ou tuer le chevalier adverse ou tuer la formation adverse qui utilise un cœur, faire tomber le cœur à la rivière.
Oui, mais puis... Rome, n'oublie pas ma façon de jouer. Je refuse de tuer les enfants.
Non, bah non, c'est faux ça. Tu as vu massacrer des enfants.
Je t'ai vu massacrer. Récemment, non.
Je suis parti où tu m'en as tué 7. Hein.
7 oui, non, oui. Tu peux pas dire ce nombre-là tout le temps. La dernière fois, c'était Rome qui t'en avait tué 7.
Non, mais alors je suis désolé. Le premier. viol non consentant qui constituait en notre rencontre où tu m'as fait
oui,
des
mais bon, c'était quand je venais d'accoucher, là j'avais encore deux... Non mais rigole, j'ai changé de façon de jouer depuis, je ne peux plus.
Non mais c'est pas vrai, le jeu commence, je pose un enfant, tu vas t'interdire de le tuer.
Je tue pas les enfants.
Tu seras obligé pour gagner.
Non, tu veux plus, non mais je joue au carreau et au pique en ce moment, donc...
Ouais, mais au pique, t'es obligé de tuer les enfants.
Ensuite, je joue au carreau. Non, mais j'arrive pas à tuer les enfants. Je trouve pas ça. Ça te fait perdre 5 PV, putain. 5 PV. Moi, j'ai déjà du mal à les garder, quoi.
T'en fous, tu fais un autre enfant et tu
comprends. Mais non, mais moi, je joue pas des enfants. Moi, en ce moment, j'essaie d'apprendre à jouer offensif.
J'ai un problème avec les enfants.
Ah, les enfants.
On ne joue pas les enfants, on ne pose pas les enfants.
Non, mais c'est pas ça, c'est que actuellement j'ai du mal, j'essaie d'apprendre à jouer offensif parce qu'à force de jouer défensif, je me prends des draclés.
D'accord, et tu penses que tuer un enfant, c'est jouer défensif? C'est empêcher l'autre de gagner des PV, c'est aussi jouer la course.
Ouais, mais c'est perdre des PV et comme en ce moment j'ai du mal à les garder.
Ah oui, d'accord, parce que vu que tu joues offensif, tu ouvres beaucoup ton jeu et donc tu t'es moins. D'accord. Ouais, bon, après, ça c'est ta manière de jouer particulière, je pense qu'on a tous ici la nôtre.
Mais donc toi, oui, ta pénurie la plus handicapante pour toi, Rome.
J'ai beaucoup de mal à trancher. Je pense que t'as quand même ouvert un point décisif sur la pénurie de carreaux et de piques, qui seraient les plus handicapantes du fait de ne pas pouvoir poser des figures fortes, sauf à exception des enfants. D'expérience, j'hésite entre deux. Soit le trèfle, qui t'empêche de piocher. Mais si t'as grand cœur, tu peux jouer une belle stratégie de majesté. J'ai découvert ça, en fait. Chers auditeurs, si vous jouez enfant et chevalier, réfléchissez toujours, car souvent, le chemin le plus court vers la victoire, ce n'est plus, lorsqu'on joue enfant et chevalier, ce n'est plus les PV adverses, mais c'est souvent la majesté. J'ai noté ça. Et donc, du coup, cette stratégie majesté, si t'as les cartes pour le jouer, la pénurie de trèfle est quand même moins handicapante. J'ai noté qu'il y a un énorme taux de victoire. Dès que tu as un enfant et un chevalier, j'ai noté que si tu joues majesté, tu gagnes, pas à coup sûr, mais quasiment.
Je suis d'accord, parce que tu as tellement investi dans ton chevalier bourrin que tu lui as mis un grand cœur et tu te retrouves avec deux grands cœurs sur ton val.
Tout à fait.
Sur ton versant, pardon.
Et alors, est-ce qu'il y a une explication à ça après dans le fait que
déjà, moi je pense que l'avantage du chevalier, c'est qu'au premier tour, si tu commences, tu poses un enfant et au deuxième tour, tu le transformes en chevalier. Donc du coup, tu n'as aucune perte de temps. Et ensuite, tu poses un autre...
Alors là, dans la stratégie que j'entreprends, c'est plutôt... Alors, tu as deux solutions. Tu poses ton enfant, et là, tu as deux choix. Soit tu poses un autre chevalier avec un autre cœur, si tu as vraiment du bol et un gros cœur. Soit, tu éduques ton enfant.
C'est-à-dire que tour 3, tu n'as qu'une formation.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est pas terrible. Ouais. Mais bon, ça dépend de ce que joue l'adversaire, bien sûr. C'est toujours pareil. Si tu as besoin de buter un gros cœur rapidement, genre... un chevalier justement adverse qui peut te poser problème. Hein. Il y a plein de cas de figure, mais bon, bref. Du coup, tu es obligé d'éduquer en chevalier, tu n'as pas le choix. Enfin, il y a plein de possibilités. Là où je veux en venir, c'est que la pénurie de trèfle, du coup, si tu as cette stratégie-là, est quand même comblable. Alors qu'il me semble qu'il y a une pénurie qui est affreuse, c'est la pénurie de pique. La pénurie de pique, si on y réfléchit bien, on peut poser que des magiciens et des enfants. Et c'est pas...
Bah, ça se fait buter par du pique adverse.
Ça se fait buter par le pique adverse
qu'il a, puisque,
toi, tu n'en as pas. Exactement. Et du coup, tu te retrouves bien emmerdé. Moi, j'ai l'impression que les parties des plus difficiles que j'ai eu à jouer,
c'est souvent
des pénuries de piques.
Contrairement... Oh, maître, vous, comme d'habitude, avis est le meilleur.
Beaucoup de gens pensent que c'est la pénurie de cœur la plus handicapante parce que justement, tu te dis, bah, le cœur, c'est ce qui permet de poser une grande majorité de figures. Tu te dis, en fait, c'est l'enfant qui fait la balance. Tu te dis, bah, regarde, à partir du moment où j'ai du cœur, je peux déjà poser enfant et autre chose. Mais en fait, c'est une illusion. Parce que le spectre permet au tour 1, le spectre, par exemple, tel que l'utilisait Cédric, par exemple, un spectre dit pantin, c'est-à-dire avec un gros trèfle et tout autour des petites cartes d'attaque, peut servir de tank pour encaisser des dégâts magiques et peut servir aussi pour piocher dans la rivière et récupérer les cœurs qui te manquent. Le choix de la pioche, en fait, que tu obtiens avec ton spectre fort peut te permettre de combler ta pénurie.
Mais grosso modo, faire des pantins, c'est aussi... parce que moi, j'entends souvent des gens dire « Ouais, mais j'ai pas de bol, mais non. » Enfin, des fois, dans certaines figures, seul compte une ou deux cartes et savoir jouer avec les pantins, c'est aussi la base du jeu. Il faut pas viser qu'à poser des trucs forts. Hein. Je pense que même des fois, poser des pantins pour gagner du temps ou pour obliger l'adversaire à faire, à éliminer des cartes ou poser, comme tu dis, juste une carte forte avec que des daubes autour, bah ça, c'est une vraie stratégie. Quoi.
Un chevalier qui a un as de cœur, mais qui a un roi de cœur, tu ne dévoiles jamais son cœur. L'autre se dit, putain, c'est un roi, je vais jamais pouvoir briser ce chevalier.
Ouais, non, c'est... Ouais, c'est
Alors... J'ai l'impression que tu m'as convaincu avec cette pénurie de pique. D'un côté, je me demande si tu parles d'une pénurie handicapante en théorie contre un adversaire à peu près équilibré ou en pratique. Le plus souvent, c'est la pénurie de pique qui te cause malheur. Parce Alors, que
moi, j'ai noté. Vas-y. Moi, j'ai noté, en tout cas, à l'expérience, hein, après avoir disputé plus de 300 parties, en fait, que effectivement, c'était la pénurie de pique qui était la plus handicapante. Ouais. Vraiment. Mais vraiment.
Et donc, j'ai l'impression.
Et moi, je pense que tu m'as vraiment convaincu. Hein.
Donc, du coup, tu la mettrais au top 1.
Parce que je te fais confiance sur le fait que effectivement en pratique en y réfléchissant la pénurie de pique à chaque fois tu te sens complètement impuissant et tu te fais assez briser et théoriquement c'est la seule pénurie qui implique que l'autre va être très fort sur les formations que tu vas poser. Tu vas forcément poser quelque chose qui a un cœur, or tu n'as pas de pique donc il en a. Ouais, et donc théoriquement ça prouverait
Et sachant que la deuxième formation possible, donc la première formation possible si t'as pas de pique c'est l'enfant et c'est une formation défensive donc tu laisses forcément l'ouverture à ton adversaire. Et la deuxième formation possible c'est le mage et le mage
de la fragilité quoi.
Exactement, c'est-à-dire qu'il est sensible à la fois au trèfle et à la fois au cœur, donc il est ouvert sur le carreau adverse et sur le pique adverse. C'est une catastrophe.
D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur Google Plus, je crois, qui mettait que le mage était sa formation préférée. Je veux une explication.
Oula, oui, mais attention, parce que dans un an, on ne sera pas d'accord avec ce qu'on a dit dans ces micros aussi.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est clair. Les choses peuvent encore bien évoluer. Des stratégies très agressives, comme celle de Yann, par exemple, qui utilise le mage.
Ouais, puis moi, je n'ai plus du tout la même façon de jouer de celle d'il y a deux mois.
Ouais, voilà. C'est complexe. Donc, voilà, je pense que si on voulait... l'idée dominante, ce serait de penser que c'est le cœur, la pénurie la plus pénalisante parce qu'on se dit, bah, en fait, on n'a qu'un seul choix, c'est le spectre. Seulement, le spectre, on oublie souvent de se dire que ça nous donne du choix. Alors certes, ça nous enlève 5 points de majesté, donc ça nous fait commencer la partie un peu moins. Mais en termes de pioche et en termes d'attaque, le spectre nous laisse le choix de la maîtrise de l'adversaire. Mon avis, c'est pas une pénurie si handicapante que ça, même si c'est une des plus handicapantes. Hein. Selon moi, la plus handicapante, c'est le pique. Et donc, s'il fallait les classer, je dirais pique,
cœur,
le trèfle,
carreau.
Et le carreau, la moins handicapante.
Du coup, ça a remis en ordre. Tu disais que le trèfle était le moins.
Ouais, mais carreau, c'est. Enfin, tu peux jouer sans carreau. Hein.
Il n'y a que le spectre qui va te poser problème. Ouais. Mais si tu as gros pique, tu peux passer à côté du spectre et donc avoir une stratégie effectivement.
Je sais pas, encore une fois, dans la théorie, si tu n'as pas de carreau, tu poses que des créatures à double faiblesse.
Oui, mais en fait, le truc, alors c'est vrai. C'est vrai, mais tu poses une créature à double faiblesse, à savoir le fou qui te permet de piocher et donc éventuellement de combler ta pénurie. C'est pour ça que la pénurie de trèfle est quand même moins handicapante.
D'accord.
C'est ça l'idée en fait. Mais bon.
Donc moi, je dirais, dans ce cas-là, pique, trèfle. Cœur carreau.
pique.
Cœur, je trouve pas si grave que ça.
Carreau.
Ah ouais.
Bah ouais, parce que t'as une.
Ça se règle avec une partie.
J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un spectre va te faire piocher. J'ai l'impression que.
Enfin, en tout cas. C'est à vous à présent de débattre de cette question. Alors vous voyez que quand on aborde comme ça les questions au sujet du Val, on est un petit peu obligé de brosser large et d'aborder un peu toutes les problématiques et tous les concepts en jeu dans le Val. On essaiera comme ça de temps en temps de vous proposer un petit podcast, une petite discussion avec des joueurs de Val. Pas toujours les mêmes, on essaiera de faire tourner les gens. Je voudrais ici remercier toutes les personnes qui font vivre la communauté du Val à travers les réseaux sociaux, qui font de la communication pour le jeu, qui forment de nouveaux apprentis aussi par égoïsme pour leur force céleste, je le sais, mais aussi par amour du jeu, et ça me fait très très plaisir. On ne sait pas trop si on va continuer ce petit podcast. Si ça vous fait plaisir, commentez-les. On va ouvrir un petit thread dans le forum pour en parler avec cette question: quelle pénurie est la plus pénalisante, et ce sera à vous de réagir sur ces questions et réagir aussi sur ce podcast. Il y a des défauts, des choses à améliorer, est-ce que la question a été bien traitée, est-ce que, voilà, quelles sont vos pénuries, vous, selon vous, les plus pénalisantes, selon votre expérience, parce que le Val, on ne dira jamais assez, c'est un jeu en fait d'expérience, c'est l'expérience qui fait la différence entre le bon joueur du Val et le mauvais. Plus vous jouerez de parties, c'est un peu comme aux échecs en fait, plus vous jouerez de parties, plus les parties vous seront connues et les possibilités vous sembleront crédibles, gagnantes on va dire, ou perdantes, et c'est vraiment très important de jouer beaucoup, de se faire de l'expérience. Voilà.
C'est, Flavie, je peux dire une connerie?
Vas-y, je t'en prie. C'était le ténor de Barthez là d'un coup.
Where is my Val? Where is my Val?
Alors les gars, donc si vous êtes contre les chansons de Flavie dans les podcasts, ça, je peux comprendre.
On a ça, la fin avec Darky.
Je ne cautionne pas. Moi, je vous dis à la prochaine, et que la force céleste soit avec vous.
Que la force céleste soit avec vous.